Merci Donna. Nous disons bienvenue à Madame Philomène Omatoukou et merci d'être venue.
Merci beaucoup.
Alors pour une brève présentation, vous avez déjà occupé de hautes fonctions avant celle de ministre de la Condition féminine que vous occupez à ces jours. On en parlera, mais vous avez aussi fait vos premières études au pays.
Oui, j'ai fait d'abord mon école maternelle à Katanda, qu'on appelait l'école des bananes, au Kassai Oriental, et puis j'ai fait ma première année de primaire à l'Institut Sainte-Marie Médiatrice de Louga.
Et vous avez continué les études en dehors du pays?
Oui, j'ai terminé mes études primaires à l'Institut de l'Immaculée Conception et Sœur de la Providence à Saint-Servais, à Namur, et ce qu'on appelle ici le diplôme d'État à Champion, toujours dans la province de Namur, en Belgique.
Et les études supérieures, par après, c'était toujours en Belgique?
Oui, je suis ingénieur civil, physicien, diplômé de l'Université libre de Bruxelles, et aussi licencié en physique théorique.
En tout cas, ni votre père, ni votre mère n'avaient jamais embrassé ce domaine?
Non, non, mon père était assistant médical et ma mère infirmière.
Dans toute la famille, il y a eu des ingénieurs?
Non, je suis la seule.
Mais expliquez-nous un peu comment c'est venu, ça.
Bon, c'est un peu les aptitudes, hein. Au fur et à mesure qu'on fait des études secondaires, bon, les enseignants, les professeurs vous dirigent, et puis bon, j'aime aussi relever les défis de connaissance. On disait tellement de choses sur la physique, sur les bombes atomiques, sur les réacteurs qui les bloquaient. Et pour moi, j'ai trouvé ça intéressant de reculer les limites de ma connaissance et savoir pourquoi il y a certains éléments qui peuvent faire autant de mal. Je suis pacifiste de nature, donc c'était surtout, j'avais besoin donc de violer le secret de l'atome pour avoir mon apaisement. Pourquoi ça fait tant de problèmes?
Est-ce qu'on peut dire, conclure à partir de cette démarche que Philomène Omatoukou, c'est une femme qui aime se distinguer, qui aime prendre des risques, même braver les dangers?
Bon, peut-être pas se distinguer pour moi-même, hein, mais je ne sais pas comment le dire sans paraître me vanter, mais si Dieu m'a donné des facultés, des capacités, il faut que je les utilise au maximum.
Et vous avez choisi la physique, c'est quand même un domaine où on a trouvé des grands savants et rarement des femmes, peut-être Marie Curie, justement. Et vous connaissez d'autres femmes congolaises qui font de la physique?
Non, je sais que nous sommes à 3 ingénieurs physiciens au Congo. Il y a M. Olangi, M. Chung qui est à l'AMIBA et moi-même. Bon, mon cheminement m'a peut-être permis d'entrer plus facilement en contact et de démystifier un peu certaines choses. C'est-à-dire, je n'ai pas subi trop les barrières socioculturelles, des stéréotypes sexistes qui bloquent les filles. Bon, j'ai un peu échappé à cela. Bref, j'ai voulu vraiment connaître un peu. Vous savez, la physique, c'est la mère de toutes les matières. La mathématique n'est qu'une description, mais c'est la physique vraiment qui est à la base de tout. Et je voulais, moi, un peu posséder un peu la connaissance de ce qui me gère à tout moment. Nous respirons, nous habitons, nous bougeons. Tout ça, ce sont les lois de la physique d'abord.
Le grand témoin.
Et en ce qui concerne votre carrière professionnelle, vous avez débuté à la GECAMI.
Quand j'ai terminé mes études, GECAMI faisait des appels d'offres pour suppléer un peu à tous les expatriés qui avaient quitté après la guerre de Colombie. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir travailler. J'ai fait mes tests de recrutement, j'étais engagé.
C'est Laurent Désiré Kabila qui vous prend pour être ensuite vice-présidente de l'Assemblée constituante et législative.
Oui, il a lancé un profil. Il avait besoin aussi d'intégrer les femmes. Il voulait travailler aussi avec les femmes et il voulait créer le Parlement. Il a estimé que dans le présidium du Parlement, il souhaiterait une femme. Il a lancé un profil. Donc j'étais là aussi pris par le profil. Je ne connaissais pas le président, nous est directement.
Et vous ne connaissez rien de démarche parlementaire, sûrement?
Je n'avais jamais été au Parlement. Et surtout avec ma formation, je n'avais jamais été au Parlement, mais j'admets que j'avais quand même une certaine grâce de Dieu. Je ne m'étais jamais enfermé dans des syllabus de mathématiques. Quand il y avait des conférences, des débats, j'y allais, je participais. Enfin, je m'intéressais vraiment au mouvement de tous les pays qui luttaient pour la démocratie. J'allais à des conférences, des débats et tout. Je n'étais pas enfermé dans une matière parce que, comme je vous dis, des facultés aussi, Dieu m'avait donné aussi des capacités littéraires et j'aimais beaucoup lire. À l'école secondaire, il m'arrivait d'être première en mathématiques et première en français. J'ai toujours été très polyvalente, ça m'intéressait. Ce qui fait que la direction des assemblées, je la connaissais au niveau des étudiants.
Parce que vous êtes même devenu le numéro un de l'assemblée après le départ de celui qui était président.
Monsieur Tchamala,
oui. Et c'était très dur de diriger un parlement comme ça.
Ce qui était dur, c'est que je commençais à zéro. Quand je deviens présidente de l'Assemblée constituante et législative parlement de transition, on n'a même pas encore adopté le règlement intérieur. Donc, j'ai dû vraiment partir de zéro. Ce n'était pas toujours facile pour les députés, c'est-à-dire les Congolais qui étaient là, et tous n'acceptaient pas d'être dirigés par une femme, n'étaient pas habitués. Un jour, dans une commission qui traînait beaucoup, qui créait beaucoup de problèmes, justement avec le règlement intérieur, je suis venu, j'ai parlé, peut-être un peu dur puisque je venais de l'industrie lourde de la Gécamine. Oui. Là-bas, voilà, Moukoubo, c'est celui qui donne de la voix. Et je n'aurais peut-être pas encore assez. J'ai parlé, j'ai dit à la commission, en tout cas, j'ai tapé du poing où ça passe, où ça.
Ça a été mal fini.
Et un député a dit, mais ce n'est pas possible. Il a dit, vous restez tranquille. Moi, j'ai deux femmes. Jamais une femme peut me parler comme ça, vous voyez. Donc, ce n'était pas simple, mais dans l'ensemble, c'est-à-dire la grande dynamique d'ensemble, ça allait bien.
Oui, mais en 2003, vous continuez, la transition commence et vous êtes retenue comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Oh là là, là c'était encore
plus difficile.
Plus difficile, puisque... il fallait vraiment naviguer avec un monstre à 8 pattes, 5 composantes, 3 entités. Essayer chaque fois de rester vraiment sur les rails, un train vraiment avec beaucoup, beaucoup. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, après qu'on ait adopté la Constitution, que moi, qui durant toutes mes études, toute ma jeunesse, j'ai lutté pour la démocratie dans mon pays, j'ai eu beaucoup d'émotions de me retrouver dans un isoloir et de voter selon mon gré. Ça, c'est la grande satisfaction que j'ai retirée de toutes ces difficultés que nous avions connues. Nous devions souvent arrêter, négocier, parlementer, avancer, arrêter, négocier, parlementer. Mais le jour où j'ai pu voter pour décider du choix de la constitution de mon pays, j'ai eu beaucoup d'émotions et ça valait la peine tout ce que nous avions vécu.
Après, vous faites un bref passage au ministère de l'Industrie, donc après les élections, et vous voici aujourd'hui au ministère de la Condition féminine. C'est une récompense de votre activité politique?
Je crois que nous ne sommes pas encore aux heures de récompense, monsieur. Nous sommes encore aux heures de remplir les missions qu'on nous donne. Vous voyez que le système électoral qu'on a pris du plus fort reste a émietté le pouvoir au sein de l'Assemblée. On ne sent pas vraiment une majorité qui peut permettre une stabilité. Cet émiettement a provoqué aussi encore une petite dimension du gouvernement. Et à ce moment-là, nous avons encore beaucoup d'émissions. Il faut vraiment aider la nation à aller de l'avant. Ce n'est pas encore des heures de récompense.
Alors, aider la nation à aller de l'avant, vous êtes au ministère de la Condition féminine. Nous allons faire un tour dans votre cabinet, voir comment vous travaillez avec Kéline Couté qui a suivi une journée avec vous.
Nous sommes sur l'avenue Colonel Ibéa, dans l'immeuble de la reconstruction, précisément au troisième niveau. C'est là que se trouve le ministère de la Condition féminine et famille. Il est 8h passées, nous attendons l'arrivée de Madame la Ministre. 9h, 10h, 11h, toujours pas là. C'est vers 12h que Madame la Ministre arrive au cabinet, dans une prado blanche de l'UNFPA. Pour son attaché de presse, ce retard est dû à un rendez-vous qu'elle a eu avant de venir au bureau, mais généralement, déjà vers 8h, elle est déjà dans son bureau.
Vous savez, Madame la Ministre tient surtout au travail, qui fait qu'elle est le matin vers 8h au bureau et elle quitte même tard parce que c'est une femme qui adore vraiment le travail.
La salle d'attente est remplie. Mamie Isabelle Tola, son hôtesse, nous dit que c'est pareil tous les jours et maman, c'est comme cela qu'on l'appelle au cabinet, fait toujours un effort pour recevoir tout le monde, même ceux qui s'improvisent.
Bon, je ne peux pas vraiment déterminer le nombre de gens qu'elle reçoit par jour parce qu'il y a un grand nombre de gens qui viennent, mais elle s'efforce quand même à satisfaire les gens.
Toujours à l'écoute des gens, comme nous dit son attachée de presse, Madame la ministre prend son temps pour écouter. Et quand il s'agit du travail, elle est très rigoureuse. Certaines personnes pensent peut-être que c'est un défaut, mais pour Jean-Paul, c'est plutôt une qualité.
C'est vrai que tout le monde a ses défauts, mais avec maman, je crois que c'est pas vraiment un défaut, mais lorsque ça excède, c'est la rigueur dans le travail. En quelque sorte, elle tient à ce que le travail soit fait convenablement.
Il est 16h50, Madame la ministre quitte le cabinet pour une réunion au Grand Hôtel avec le réseau des femmes ministres et parlementaires africaines, section RDC. Là, plusieurs femmes sont réunies. Et c'est vers 23h qu'elle quitte le Grand Hôtel pour sa résidence. Ainsi, s'achève cette journée de Madame la ministre de la Condition féminine. Son attaché de presse nous dit que c'est presque comme cela tous les jours. Des journées chargées, surtout qu'elle prépare la clôture du mois de la femme.
Oui, voilà, des journées chargées, peut-être on prend quelques heures de retard pour arriver au bureau, madame. Vous passez peu de temps à la maison?
Même à la maison, je continue à travailler. Surtout que le téléphone portable est devenu une véritable prison. Hein. Ça continue.
Combien d'appels par jour?
Oh là là. Je crois que je n'ai jamais cherché à compter, ça risque même de démoraliser, mais... Le travail continue toujours, toujours, toujours.
Voilà, une petite indiscrétion. Le Premier ministre vous appelle?
Non, non. Nous avons un ministre délégué chez le Premier ministre et généralement, quand j'ai affaire, je m'adresse à lui. Avant que je puisse le sauter, c'est qu'il y a un blocage. Le professeur Mayobo est très actif. Il arrive toujours à répondre à nos préoccupations.
C'est sans doute les collaborateurs aussi, ou la famille parfois, les appels?
Oh là là, beaucoup, et même vous, les journalistes aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous ceux qui ont, disons, qui peuvent avoir un lien quelconque avec le ministère, ils appellent toujours. Généralement, tout le monde évite de passer par les collaborateurs. Parce que si un collaborateur dit ça ne peut pas aller, on se dit non. Donc, il y a encore vraiment, mais c'est encore au début, hein, quand ils vont apprendre à connaître nos collaborateurs, j'espère qu'à ce moment-là, hein, on va un peu réduire.
Le grand témoin.
Le grand témoin sur Radio Capine, nous entretenons avec Madame Philomène Matoukou, ministre de la Condition féminine. Alors Madame, après les élections, il se dégage une faible représentation de la femme dans les institutions. Sur 108 sénateurs, il n'y en a que 5. Sur 50 députés nationaux, 42 femmes seulement. Et à la députation provinciale et au gouvernement, la parité est très très loin d'être accomplie. C'est ce qui a poussé les femmes d'ailleurs, les femmes d'entreprise, à lancer une opération de lobbying il y a tout juste une semaine. Elles ont proposé 45 dossiers des femmes qui peuvent diriger les entreprises. C'est leur principale recommandation. On écoute Berthe Akatch. Elle est la coordinatrice générale donc du réseau des femmes des entreprises du Congo.
Avec la transition, nous avons remarqué qu'il y a eu moins de femmes dans les comités de gestion des entreprises publiques. Et les quelques rares femmes qui se sont retrouvées dans les comités de gestion ont prouvé vraiment du bon travail. Elles ont très bien travaillé. Et donc c'est pour cela que nous nous basons sur ces femmes qui ont produit un très bon rendement pour demander au gouvernement de faire encore confiance à ces femmes et leur confier des plus hautes responsabilités pour le redressement des entreprises publiques.
Mais il y a des gens qui, une certaine opinion qui soutient que la plupart des femmes ont des problèmes de compétences. Qu'est-ce que vous dites de ça?
En effet, les femmes que nous proposons comme mandataires des entreprises publiques, nous ne l'avons pas fait seulement parce qu'elles sont féminines, mais nous avons tenu compte de leurs aptitudes, c'est-à-dire du niveau d'études, de leur niveau dans l'entreprise où nous sollicitons leur compétitivité dans les comités de gestion et le nombre d'années qu'elles ont passées dans une entreprise publique. Et donc leur technicité prouve à suffisant qu'elles sont capables de gérer ces entreprises. Et donc là, on ne peut pas parler de l'incompétence parce qu'elles l'ont prouvé en étant dans l'entreprise et en montant tous les échelons de l'entreprise en question.
Alors c'était Madame Berthe Akatch, elle est la coordinatrice générale du réseau des femmes des entreprises du Congo, interrogée par Alain Héron. Alors Madame, le souci des femmes est là, faible représentation dans les institutions, mais on attend la mise en place peut-être dans les entreprises publiques, et les femmes voudraient se retrouver comment aider ces femmes?
Bon, je tiens d'abord à dire qu'au niveau électoral, si nous avons une faible représentativité, c'est parce qu'au niveau, juridique, nous avons connu un blocage que nous espérons débloquer avant les élections locales.
Lequel, madame ?
Il faudrait qu'il y ait un quota de minimum 30% des femmes par liste. Ça, c'est ce qu'on appelle une discrimination positive. Et il faudrait que maintenant la liste soit bloquée. Nous avons fait les frais de plus fort reste, ce n'est pas évident. Alors, concernant les mandataires publics, nous allons nous battre pour que des femmes passent, mais comme je l'ai dit justement à la journée des femmes des entreprises, dont moi-même je suis issu de la GECAMI, jusqu'à directeur sont des fonctions administratives, jusqu'à secrétaire général de l'administration sont des fonctions administratives, comité de gestion, gouvernement, ce sont des fonctions politiques. Les femmes doivent s'engager politiquement. Les femmes doivent s'engager dans les partis politiques, faire la lutte, puisque les partis politiques sont des structures de conquête du pouvoir. Les femmes ne peuvent pas rester à l'écart, croiser les bras et puis se dire « parce que je suis femme ». Il faut s'engager. Puisque une erreur d'un mandataire public, c'est le gouvernement qui sera attaqué, ce n'est pas l'entreprise. Et moi-même, je suis dans un parti politique aussi. Donc il faut qu'on s'engage, il faut s'engager. Nous ne pouvons pas laisser faire la lutte politique seule aux hommes et puis dire parce qu'on est femme. Et paradoxalement, quand il s'agit de lutter, nous avons vu pendant la transition, les femmes se sont énormément mobilisées. Pendant les guerres, les femmes se sont énormément mobilisées. Mais elles doivent accepter de faire carrière dans les partis politiques.
Mais est-ce que là, on n'encouragerait pas seulement la politique au détriment de la compétence?
Non, c'est dans la politique qu'on peut choisir des gens compétents professionnellement et compétents politiquement. Ah oui, il faut avoir un idéal, un projet de société, et avoir une compétence professionnelle et une compétence sur le plan des partis. C'est comme ça que cela se fait. Si vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien à la politique, comment il va appliquer la politique du gouvernement dans son entreprise? Il ne pourra pas l'appliquer. Et quand vous réagissez comme ça veut dire, nous avons toujours la vision négative de la politique. La politique est une activité positive, c'est la gestion des affaires de la cité. C'est une action noble, mais il faut avoir la culture politique. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire carrière. Nous avons connu avec la transition des gens qu'on prenait du jour au lendemain, mais maintenant nous entrons dans la Troisième République. Il faut adhérer, il faut être stable, il faut être loyal, il faut être engagé. Et c'est quand on n'a pas ces aspects-là, quand on n'a pas une culture politique, qu'on est exposé à l'erreur, qu'on est exposé à la trahison, qu'on est exposé au vagabond.
Madame, vous faites de la politique, vous êtes au ministère de la Condition féminine,
oui.
C'est aussi là qu'il faut se charger de la jeune fille. Que
oui.
Faire avec votre ministère pour que ces filles congolaises soient des femmes responsables, utiles à la nation dans l'avenir?
Bon, j'ai d'abord trouvé un déficit criant en matière des infrastructures. Hein. Il n'y a pas de maison de la femme, c'est-à-dire des endroits où en permanence les femmes peuvent rencontrer des professionnels comme des sociologues, des psychologues, des médecins en fonction de leurs problèmes, des juristes pour leurs droits. Et il faut d'abord créer ces infrastructures. Il ne s'agit pas de, oui, séminaire, atelier, Fatima, séminaire. Non, il faut un lieu en permanence où elles peuvent trouver des gens qui peuvent les encadrer, les aider.
Donc c'est ça qu'ils m'ont permis de faire?
Oui, si moi je peux vous parler comme ça aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais étudiante, je vous dis, les conférences, j'ai pu avoir des références, j'ai pu admirer des gens qui connaissaient, qui transmettaient, qui m'ont aidé à avoir à être capable de faire une analyse politique, une analyse sociale.
Alors,
l'université ne peut pas tout nous donner, moi je suis physicienne, jamais je n'aurais pu à parler comme ça si j'étais enfermée.
De façon concrète, donc, des maisons comme ça, vous voulez en construire combien à travers le pays?
Partout jusque dans les villages. Au village, on va même faire en terre et en toit de chaume, mais il y aura un écriteau en français, maison de la femme, et en langue locale, pas langue nationale, maison de la femme. Et nous allons pour favoriser les coopératives, nous allons créer des cantines pour aider les femmes qui travaillent à vendre, les organiser. Il faut maintenant vraiment ce que j'appelle moi un travail de proximité. Travailler avec la femme, vivre avec elle. Et toutes ces structures-là, c'est pour l'écouter. Il faut l'écouter, et si nous l'écoutons très bien, nous saurons mieux comment cheminer. Il y a eu beaucoup d'efforts.
On entend cette volonté-là, madame, mais de façon quantitative, ça va demander combien d'argent? Vous avez déjà sollicité combien au budget de l'État pour arriver à ça?
Bon, le budget de l'État, nous sommes en train de tout revoir. Hein. C'est un autre gouvernement, le gouvernement Guizenga, c'est un autre gouvernement, une autre vision. Nous sommes maintenant en train de travailler sur les éléments, puisqu'il faut des éléments. Quand nous aurons déterminé les éléments, nous aurons des enveloppes. Mais moi, je compte beaucoup sur la bonne volonté des femmes. une maison en terre avec des toits de chaux, ça ne nécessite pas des milliers et des milliers de dollars, mais les femmes seront capables de beaucoup de bonne volonté, elles vont surmonter. Et si on a un endroit où on peut les rencontrer, leur parler tout le temps et on peut les visiter, et je pense que les choses iront beaucoup plus vite. Si vous voulez connaître le nombre de maisons de la femme qu'on va faire, demandez au ministère de l'Intérieur le nombre de villages.
Donc c'est pas en village en fait.
Oui, oui, partout. C'est-à-dire partout, nous devons permettre à la femme, quand elle a un problème, quand on veut lui transmettre une formation, une acquisition des connaissances, on sait où la trouver, où la joindre. Et c'est d'abord, cela c'est d'abord identifier localement vraiment tout ce qui bloque la femme. Et je me réjouis beaucoup du 4e congrès africain de la femme rurale qui va se tenir prochainement à Durban. J'espère que la RDC va amener bien des choses. Je viens de lancer la commission tout de suite là qui prépare notre voyage.
Le grand témoin.
Alors, il y a beaucoup de gens sûrement qui nous écoutent et ils savent que nous sommes avec la ministre de la Condition féminine. Il y a des gens qui nous écoutent, mais qui ont aussi des préoccupations. On va écouter quelques citoyens congolais qui ont des préoccupations et qui voudraient bien que vous puissiez leur donner des réponses.
La femme occupe une place de choix dans le développement d'une nation et particulièrement pour notre pays. Et pourtant, elle subit multiples formes de violence en ce qui concerne le développement de notre pays. Avec toutes les capacités dont elle dispose. Quelles sont les stratégies que vous préconisez pour remédier à cette situation, pour permettre à la femme de mieux exploiter ses compétences et ses capacités afin de développer notre pays, la RDC?
Voilà, madame Philomène Matoukou, question des violences, la femme n'exprime pas toutes ses capacités, quelles sont les stratégies?
Bon, en matière de violence, je suis heureuse de vous dire, c'est moi qui avais dirigé la plénière qui a permis d'adopter la loi
sur
les violences sexuelles. Ce n'était pas facile parce que nous avons tenu à préciser de façon anatomique ce que c'est qu'un viol. Et nous l'avons fait. Alors ce que nous allons faire maintenant, et ça fait partie de la campagne actuelle, c'est d'encadrer les femmes, notamment dans les maisons de la femme, pour qu'elles parlent. Si elles parlent, on peut les soigner. Si elles parlent, elles peuvent porter plainte. Et en même temps, elles ont l'encadrement des professionnels. Et les violences que la femme subit, j'ai eu aussi à le dire aux femmes des entreprises, nous avons beaucoup de droits, mais aussi des obligations. Nous avons l'obligation de préserver notre dignité. Moi, je leur ai dit que avec la CLPT, j'étais arrivée à deuxième personnalité de la République. Je n'avais payé aucun sou, je n'avais rien donné en nature. Donc, il est possible de progresser avec dignité au niveau de l'État.
On va écouter un autre auditeur qui a aussi une question.
Excellence, je m'appelle Petit de Tokyo. Qu'est-ce que vous comptez faire pour votre ministère pour la lutte contre la violence de la femme congolaise? Deuxième question. On remarque une chose à Kinshasa, des filles portent des habits là que beaucoup de la population n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il faut compter pour résoudre ce problème?
Alors vous parliez de dignité tout à l'heure, répondez à la question.
Et comme il y avait un sketch là où on avait vu que le PDG était en train de harceler, mais la jeune femme était habillée en juste au corps. Nous avons opté pour l'habillement des Européens. Là-bas, il y a des tenues de gala, il y a des tenues de plage, et puis il y a des tenues de travail. Et les jeunes gens, quand vous êtes encore très jeunes, on vous voit avec des chemises et des boutonnés. Combien d'hommes au travail, nous voyons avec des chemises et des boutonnés. Donc cet homme-là a pris un engagement. C'est-à-dire la vie, c'est une succession de choix. On a pris un engagement de choix. Que la femme se respecte, ça c'est une obligation. Les affaires d'autocouchis naïves, non.
Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la condition féminine? Vous allez proposer une loi sur l'habillement ou bien vous allez demander à ce que l'État se mette à traquer toutes les filles mal habillées? Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Je vous dis, quand j'ai parlé de ça aux femmes, donc j'ai expliqué nos obligations. La dignité de la femme ne peut pas avoir un sens s'il n'y a pas la dignité de l'homme. Si l'homme est un objet que nous pouvons aussi exploiter et puis jeter, ça ne va pas. Nous respectons la femme, nous respectons l'homme et que la femme se respecte. Que la femme ait un habillement qui amène la paix au travail, qu'elle ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Ce qui fait qu'avec les maisons de la femme que nous allons produire, nous aurons des espaces où les femmes vont se parler entre elles. Et j'avais demandé aux femmes qui ont plus d'expérience et qui sont aussi, disons, qui ont déjà la dignité, que quand une jeune femme arrive comme ça ou quoi, eh bien vous l'appelez avec beaucoup d'amour, de gentillesse, lui dit ma soeur, vous êtes très jolie, très intelligente et tout. Vous n'arriverez pas à capitaliser au maximum ce que Dieu vous a donné comme atout. Vous allez être réduit en objet, vous allez être sosifié. Et un jour, on va vous presser comme une orange et puis vous jeter. Donc, c'est un grand travail de sensibilisation. Il n'est pas question de recourir à la violence ou à la loi. C'est un travail de sensibilisation. Et je vous dirais que j'ai été énormément applaudi par les femmes des entreprises. Elles sont même montées au podium pour me féliciter d'avoir parlé. Et même la prise en charge. Il y a des femmes qui peuvent avoir l'argent, mais il faut qu'un monsieur lui paye un coca, même si ce sont des collègues. Comme vous êtes la journaliste, elle a l'argent, mais elle ne peut pas payer. Et il faut qu'on lui paye un coca, c'est-à-dire que la femme s'enorgueille de dépendance. Non, il faut l'autoprise en charge.
On a compris, Madame Philomène Matoukou. Avant de commencer cette émission, avec Donna, vous nous proposiez Mazer de Taboulet, et on tend déjà vers la fin. Et nous vous proposons une chanson, parce que beaucoup de vos proches ont proposé des chansons religieuses. Malheureusement que nous ne savons pas faire passer sur Radio Capi, nous allons quand même vous proposer une chanson et on aura vos commentaires après. Difficile quand même d'arriver jusqu'au bout. Il ne nous reste qu'une minute. Alors, votre commentaire, madame, sur cette chanson et sur toutes les autres chansons qui parlent un peu de la femme.
Bon, ce qui est bon, c'est qu'effectivement, les difficultés ne se termineront jamais. Hein. L'existence des personnes font qu'il n'y aura jamais de difficultés qui se terminent. Mais vous voyez que l'homme se plaint qu'il est obligé de mourir. Et moi, j'ai toujours dit que l'émancipation de la femme, c'est la délivrance de l'homme. si on me disait aujourd'hui, croisez les bras, mais vous allez faire le tour du monde, vous aurez tout ce que vous aurez. Il y a beaucoup de tentations qui est beaucoup de parasites. Oh, la femme parasite, même au village, elle n'existe pas. Le matin, tout le monde va au champ.
Alors, un mot, c'est quand même la fin du mois de la femme. Aujourd'hui, un mot, vous êtes ministre de la condition féminine.
Bon, j'encourage vraiment les femmes à beaucoup de solidarité. J'encourage les femmes à se prendre en charge. J'encourage les femmes à préserver leur dignité. Et surtout, j'encourage les jeunes filles à continuer leurs études.
Merci beaucoup, grand témoin qui recevait Philomène Omatoukou, ministre de la Condition féminine. Merci encore une fois, madame, d'être venue. Merci également à vous de nous avoir suivis. Grand témoin, grand rendez-vous demain. Ne manquez pas Papa Wimba et je vous laisse en compagnie de Dona Madimba. Au revoir et à la prochaine.